Je fais d'abord, je resitue un peu votre volonté d'un mariage religieux. Pourquoi? Mais parce que, justement, en demandant la bénédiction de Dieu, vous avez une dimension de prière dans votre mariage. L'union entre un homme et une femme, et qui prend sa source dans la création, dans l'existence d'un Dieu créateur. Et c'est la raison pour laquelle il faut se resituer par rapport à ces réalités, faire un tout petit peu justement de connaissance de l'existence de Dieu, de ce qu'il a fait, de l'origine de la vie, donc les réponses de la foi et de la religion par rapport à ce qu'on peut vous dire sur l'origine de la vie et sur votre vie. L'un d'entre vous ou les deux ont la foi, sinon vous ne seriez pas là. Ça n'aurait pas de sens de vouloir se marier religieusement si on ne croit pas que Dieu existe. Et donc... mais il va falloir bien prendre conscience que c'est au nom de cette existence de Dieu que vous demandez son aide. S'il existe, il peut vous aider. Et qu'il vous aide pour quelque chose de particulier qui est le mariage, l'union entre un homme et une femme. Et donc dans un premier temps, nous verrons cette existence de Dieu, ce qu'il a fait par rapport à l'humanité, la place du mariage dans l'humanité, et aussi par rapport à tout ce qui s'est passé dans d'autres peuples, par rapport au mariage, et ensuite par rapport au signe qu'est de l'arrivée de Jésus dans le monde et son rapport avec le mariage. Ensuite, vous verrez que les autres séances seront beaucoup plus pratico-pratiques. Mais déjà, vous voyez, vous regardez, vous avez une introduction assez générale. Mais ici, la première séance, c'est l'existence de Dieu créateur et père. La croyance humaine, donc les religions et la révélation biblique par rapport à l'union humaine. Et jeudi prochain, on va voir justement quelle est l'importance de Jésus par rapport à votre mariage, en fait. Donc, faire de l'histoire sainte par rapport à notre volonté de nous marier. Ensuite, ça sera beaucoup plus pratique. Le 18 février, ça sera les vertus du couple et la liberté de l'engagement, la fidélité et l'unité. C'est-à-dire que vous n'allez pas être polygame. Voilà, mais ça va. Polygame simultané, ça semble évident. Polygame successif, parfois justement. L'Église catholique est actuellement la seule religion au monde à refuser le divorce. Et c'est un poids particulier. Mais voilà. Enfin, aucun de vous n'avait été marié civilement, ni divorcé. Et donc, vous voyez, donc vous vous engagez dans un acte extrêmement profond et fort. Et dans l'Église catholique, c'est un acte à la vie et à la mort. Donc c'est très romantique finalement. Mais de nos jours, ce romantisme a fatigué les gens. Et au contraire, on prétend que c'est romantique de refaire sa vie. Mais c'est sûr qu'il y a des épreuves dans des vies humaines, des séparations et des consolations avec d'autres personnes plus tard, et qu'on présente d'une manière, comment dire, favorable de nos jours. Mais ce n'est pas il ne semble pas que ça soit l'amour héroïque est plutôt dans la persévérance, le pardon, voire l'attente, si on doit se séparer d'un époux ou d'une épouse extrêmement violent ou extrêmement malade. Il y a une sorte de fidélité même dans la séparation de corps. Et c'est là que ça dépasse le romantisme, en effet. C'est un amour qui fait qu'il ressemble à l'amour divin. Et donc, pour pouvoir mieux comprendre le mariage chrétien, il faut comprendre comment Dieu nous aime. Voilà, la quatrième séance sera sur l'amour au quotidien, la vie professionnelle, la vie quotidienne, future, on expliquera. Cinquième séance, le sacrement lui-même. La sixième séance, ce sera un partage avec un couple qui connaît très bien enfin, qui fait des préparations au mariage, qui suit des couples en difficulté, tout ça, enfin, ou qui veulent progresser dans leur couple, donc ce sont un couple témoin qui va venir. Et bien, la septième séance, ce sera un repas comme aujourd'hui. Comment dire, parce que on pourrait faire un repas à chaque fois, mais comme c'est jeudi de suite, je pense que ça vous pèserait. Voilà, il vaut mieux le faire à la dernière séance. Et donc aujourd'hui, d'abord, ça va vous sembler un peu désarçonnant, peut-être. Pour certains, ça l'a été, alors donc je préfère prévenir. On va parler de l'existence de Dieu. Page 2, voilà. Donc, l'existence de Dieu. Alors, Dieu est un esprit éternel et tout-puissant. Et c'est quoi un esprit? Un esprit, c'est un être qui comprend ce qu'il fait, ce qui lui arrive, et qui veut faire. C'est un esprit doué d'intelligence, de compréhension et de volonté. C'est un être ainsi fait. C'est ce qu'un esprit. Les mouches n'ont pas d'esprit. Au risque de vous vexer ou de vous faire de la peine, les chiens n'ont pas d'esprit. Les chats n'ont pas d'esprit, même s'ils ont comment dire, un instinct extrêmement développé et ce qu'on appelle une estimation, mais qui va jamais dans la compréhension des causes, du pourquoi des choses. Ils vivent l'instant. L'animal vit l'instant. La bactérie aussi, hein, sauf qu'elle a très très peu de sensibilité. L'hirondelle vit l'instant. Elle pond son œuf, elle le couve. Le pigeon pond son œuf. Et alors que les pigeons sont relativement craintifs, sauf ceux qui sont tellement habitués aux places de touristes que l'être humain ne leur fait plus peur, d'autres ne vont pas toujours sur des places de touristes, donc on part très vite dès qu'il y a l'homme, hein. Mais voyez-vous, quand un pigeon couve ses œufs, eh bien, il reste sur ses œufs jusqu'à 20 cm, hein, de la menace. Il ne partira que quand il n'en pourra plus de peur, mais il y a un instinct maternel assez impressionnant. Mais ils ne comprennent pas ce qu'ils font, mais ils le font bien. L'araignée ne comprend pas la toile qu'elle fait, mais elle le fait très bien. L'hirondelle fait un très beau nid en torchis, mais ne sait pas qu'elle le fait. Enfin, elle sait qu'elle le fait au moment où elle le fait, mais elle ne le conçoit pas. Vous avez des nids qui sont impressionnants d'architecture, de brindilles, de machin. Vous avez des nids creux, des nids fermés. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des nids fermés. Et bien pourtant, vous voyez, aussi bien les espèces d'araignées que les espèces d'oiseaux n'ont pas conçu ce qu'ils font. D'ailleurs, dans les documentaires animaliers et autres, très très souvent, ils vont vous dire. Il a pensé à ça, il a fait ça, mais on se moque du monde. Vous voyez? Le papillon n'a pas pensé à se faire un camouflage sur ses ailes. il a eu ses ailes et il y a pas un atelier de d'ailes de papillon où il les peigne, ils reviennent, ils y pensent. Enfin, c'est. Alors à la limite, on pourrait parler d'une sélection naturelle que telle espèce de papillon. Mais enfin, il y en a plus de 40 000 espèces de papillons. Donc, point de vue sélection naturelle, ça n'a pas beaucoup marché puisqu'il y en a beaucoup. Le chat se met sur le capot d'une voiture parce que c'est chaud. Mais jamais il ne comprendra le système des pistons qui ont fait la chaleur du moteur. Jamais. Par contre, un chat, un chien, mais un chat aussi peut ouvrir une porte. Voire même une porte ronde. Oui. Parce que avec une poignée comme ça, c'est facile. Ils observent et ils copient. Comme le bonobo à qui on apprend à tartiner une tartine de pain. Le pauvre, à la fin, on lui a dit 5 000 fois. Donc, quand les caméras arrivent, il prend la tartine et il tartine. Et donc, nous, on dit, oh, un homme. Donc, voilà. Mais seulement quand on a cessé de toutes les sciences pourraient être apprivoisées, il se balance, il vit sa vie, quoi. Nous, on a plaqué nos actes intelligents sur lui, mais lui, après, il n'en peut plus, quoi. Il se repose. Eh bien, il y a un chat, eh bien, la poignée était ronde. Il s'accrochait à la poignée et il se balançait à la poignée jusqu'à ce que ça s'ouvre. Donc, c'est une observation. Vous voyez, comme le singe qui met une brindille dans une fourmilière. Et parce qu'il voit que les fourmis montent la brindille, c'est comme l'aigle qui casse une tortue. Il prend la tortue, il s'élève et il la lâche contre un rocher. Et pour pouvoir la manger. Ou c'est la loutre qui casse comment dire, pas la loutre, ou les loutres de mer qui cassent des mollusques pour les manger. L'outil, c'est la compréhension d'une forme pour une autre forme. Le peigne, c'est pour diviser les cheveux et en retirer les. Comment dire, ou le caractère anarchique, ou des nœuds. Les chaussures, c'est pour protéger la peau de nos pieds, qui ne se tannent pas aussi bien que pour les animaux. Vous avez des peuples qui n'ont pas de chaussures, mais leur peau s'est tannée énormément, elle est devenue épaisse. Mais la plupart des hommes ont fini par trouver quelque chose de toujours plus dur que leur peau et ont des mocassins, quelque chose qui protège leurs pieds. Aucun animal n'a de chaussures. Aucun animal n'a compris que pour protéger ses pattes, il pourrait mettre quelque chose d'assez, comment dire, consistant pour protéger ses pattes. Oui, mais qui ont. Ça, c'est parce que c'est pas utile. Mais par contre, ils vont, par hygiène, ils vont protéger ce qui sent plus ou moins bon. C'est pas forcément par pudeur pour certaines sociétés, mais ils vont avoir un cache-sexe parce que c'est plus joli. Ils vont avoir certains vêtements, ils vont avoir des chapeaux, des couronnes. Ils vont avoir quand même des outils pour chasser, pour manger, pour cuire. Et donc, on viendra à la création de l'homme, justement. Mais ce que je veux vous faire toucher du doigt actuellement, c'est l'esprit. C'est un être qui comprend et qui veut. Alors, voyez-vous, dans Avatar, est-ce que tout le monde a vu ce film américain merveilleux, fantastique, que tout le monde doit avoir vu? Eh bien, donc ce sont une planète éloignée où les êtres sont bleus et en communion avec la nature, ils se branchent avec les neurones de chaque autre être. Ils peuvent se brancher. Et donc, ces êtres très très naturels et bio par rapport à nos sociétés hyper, comment dire, polluées. Les Américains arrivent, ils veulent exploiter un minerai, tout ça. Enfin, il y a une concurrence entre le monde bio, mais avec quand même une hiérarchie, une religion, avec un prêtre et une prêtresse. Et cette religion, c'est la religion de la nature, Gaïa. Et il y a un arbre blanc, lumineux, qui est censé être le cœur vivant de la planète. Parce que Cameron a eu du mal à faire un truc totalement panthéiste, c'est-à-dire il n'y a pas de Dieu esprit. Tout est matière, tout est électricité, tout est cosmos, tout est pensée neuronale. Vous voyez? Des courants électriques dans nos neurones font nos pensées. C'est à ce moment-là pourquoi tous ceux qui ont un cerveau ne pensent pas comme nous. Oui, mais ils ont un cerveau reptilien. Ben, pas tous, il y en a qui ont un cerveau. Bon. Oui, mais nous, il a grossi, tout ça. Oui, mais enfin, un cerveau, c'est un cerveau, hein. Et là, Cameron, il est bien embêté, il fait parler. Les êtres qui sont morts, ils vont quelque part où... Ah oui, mais ça peut être quand même panthéiste, c'est-à-dire qu'on est dissous dans le grand tout. On n'a plus d'existence personnelle. On est un influx. Notre pensée est un influx électrique qui va dans les autres influx électriques. Et à un moment, l'Américain qui a, grâce à la technologie américaine, qui a un corps de synthèse du peuple bleu, lui, il est là, il fait, ben c'est un Américain quoi, il va prier quoi. Donc, il prend des branches de l'arbre aux âmes. Déjà, première entorse, parce que âme, ça vient du latin animé, anima, ce qui fait bouger un corps. Or, ce qui fait bouger de la matière n'est pas de la matière. Or, un esprit, c'est quoi? C'est un être immatériel, qui n'a pas de matière, qui pense et qui veut, qui comprend et qui veut, mais qui n'a, qui n'est pas composé de matière. Bon. Alors, il prend les branches et il prie. Il dit, Aiwa, la planète s'appelle Aiwa, enfin, non? Demain, on va avoir une grande bataille avec mes anciens amis, l'armée américaine, et il faut qu'on gagne, quoi. Et l'autre, là, elle lui dit, mais Aiwa, c'est tout. C'est du panthéisme. Hein. Elle peut pas t'entendre. C'est l'ensemble des énergies cosmiques. Quand on meurt, on rejoint Aiwa, et puis voilà, on est une branche, quoi. On devient une branche. Très bien. Mais lui, c'est un Américain, donc il prie. Hein. Demain, il faut nous aider. Et le lendemain, vous avez tous les animaux de la planète qui arrivent en escadrille et qui attaquent les hélicoptères, les machins, les trucs, les soldats américains. Et l'arborigène, elle est là, elle dit oh, Aiwa l'a exaucé. Alors c'est très embêtant. Parce que si c'est un ensemble d'énergie, de courant électrique, la planète, elle ne peut pas entendre et exaucer. Mais on a du mal. Les bouddhistes disent que notre être personnel est cause de souffrance. Dès qu'on veut exister individuellement, on est dans la souffrance. Il faut essayer de souffler tout désir. Toute flamme. Nirvana, c'est de s'éteindre et de rejoindre le grand tout. Eh bien, quand Bouddha a eu cette géniale idée, lui était fils d'une famille royale locale, donc il se posait des questions philosophiques, il avait le temps, et donc il est parti. Et puis, il est parti dans la forêt et puis il a eu des disciples. Et lui, il dit, il ne faut plus désirer être. C'est embêtant. Parce que nous, la religion chrétienne, elle est fondée sur l'être. Et l'être personnel. Donc, c'est embêtant. Ce qui est sympathique chez les bouddhistes, c'est que comme ils ne désirent pas être, ben, ils sont plutôt pacifiques en règle générale. Pas tous. Et d'ailleurs, c'est très bien passé chez les cadres fatigués et stressés d'Occident. Allez, vous videz votre esprit, et puis voilà. Ils font ça. Au bout d'un certain temps, les soucis reviennent et tout, il faut vider tout le temps. Mais ça a marché, mais ça n'a pas marché tout le temps. Il y a encore des personnes qui font du zen, hein, mais le zen, c'est plutôt canaliser son anxiété, mais ne plus vouloir être, ça marche pas. Et d'ailleurs, les peuples bouddhistes, depuis très longtemps, ont divinisé Bouddha. Ils prient Bouddha, ils parlent à Bouddha, ils font des pèlerinages, des processions, des vœux à Bouddha. Alors que lui, il est censé s'être désintégré dans la stratosphère quand même. Eh ben non. Alors ils le font revenir. Les avatars, ce sont des retours de Dieu. Il y a 12 avatars, je crois, dans le grand véhicule. Il y a le petit véhicule. Enfin, il y a différentes théories bouddhistes qui essayent de rattraper une présence, mais à la fin, quand même, on doit aboutir à une absence. On doit se fondre dans un être universel et ne pas garder ce être personnel. Mais justement, dans les régions bouddhistes, dans les pays asiatiques, mais c'est très difficile de considérer que notre papa, notre maman s'est désintégré, notre frère, notre sœur, nos grands-parents. Et donc, ils ont un culte des ancêtres qui va à l'encontre un peu de cette idée géniale de Bouddha qui est, si vous voulez être heureux, vous pensez plus. Et dès que vous voulez désirer quelque chose, vous allez devoir vous réincarner. Et votre esprit va vouloir rester sur terre au lieu de partir dans le ciel, mais un ciel impersonnel. Alors, quel est le Dieu à qui vous allez demander la bénédiction? Mais le Dieu à qui vous allez demander la bénédiction, c'est Dieu suivant la tradition de la Bible. Qu'est-ce que la Bible? C'est un ensemble des écrits de ceux qui ont cru dans le Dieu d'Adam. Alors, qui est Adam? Eh bien, avant de savoir qui est Adam, il faut donc que Dieu, lui, est un être spirituel qui existe depuis toujours, parce qu'il est le Tout-Puissant. Il n'a aucune faiblesse dans son être. Or, s'il n'avait pas existé à un moment donné, il aurait dû recevoir l'être. Mais pour recevoir l'être, il faut que quelqu'un puisse lui donner. Et c'est la poule et l'œuf. Quand vous voyez une poule, vous dites, elle vient d'un œuf. Quand vous voyez un œuf, vous dites, elle vient d'une poule. Mais vous ne pouvez pas remonter à l'infini. À un moment donné, un œuf a été créé, une poule a été créée. L'ADN, la cellule de cette poule a été conçue, créée. Alors c'était peut-être d'abord l'œuf avant la poule. Mais Dieu a créé différentes espèces d'êtres. Et il les a créées de manière très intelligente. Pas au hasard et avec la sélection naturelle. La sélection naturelle a éliminé des espèces d'animaux, mais elle n'en a pas créé. Et qu'est-ce qui aurait créé des espèces d'animaux? Les milliards d'années? Les millions d'années? C'est avec des millions d'années qu'on a les yeux en face des trous? C'est parce qu'à un moment donné, notre ADN, les acides aminés se sont bien mis dans l'ordre, et quand on se forme, on a les yeux en face des trous et les oreilles sur les côtés. Par hasard, hein? Entre les branchies et les poumons, c'est par hasard qu'on filtre l'oxygène comme ci ou comme ça. Mais c'est une vaste blague. Par contre, qu'il y ait eu une évolution dans du créé, Dieu a pu le faire, c'est-à-dire transformer l'ADN pour que ça fasse tel animal, mais une intervention directe d'une intelligence extérieure. Dieu est un être intelligent et plein de fantaisie. Lorsqu'il a créé les atomes, il a créé de l'énergie pure, de l'électricité, des masses. La loi de la gravité, des couleurs. Et vous savez ce que c'est que les couleurs? Ce sont des radiations. La couleur n'existe pas sur l'objet. La couleur n'existe que sur celui qui peut décrypter les longueurs d'onde. Un objet n'a pas de couleur en lui-même. Un objet irradie des ondes, surtout s'il en reçoit d'une source lumineuse. Si lui n'est pas une source lumineuse, il n'est pas coloré. Il est coloré en tant qu'il envoie des longueurs d'onde et qu'il y a quelqu'un qui peut les voir.
C'est pour ça que dans le noir, on ne voit pas les couleurs.
Non.
C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne voient pas les couleurs.
Voilà. Et c'est pour ça qu'au fond des mers, à 3000, 4000 mètres, il n'y a pas de couleurs. Il faut que ça soit l'homme qui arrive avec une source de lumière et qui regarde. Seulement, voyez-vous, si c'est par hasard qu'on a une rétine qui décrypte les longueurs d'onde pour les coder au nerf optique et pour les envoyer au cerveau, et si ça, c'est par hasard que ça se fait, eh bien, le hasard est un génie. Oui. Et quand, avec nos sous-marins, avec des coques en titane, avec 3000 mètres d'eau au-dessus de notre tête qui nous écrase et on résiste parce que c'est une belle bulle de titane qui est là. Et quand ça craque un peu, l'autre, il a peur que ça fasse comme une noix. Et là, il est fini à 3000 mètres sous l'eau. Hein. Donc il fait un acte de foi hein, dans l'intelligence des ingénieurs qui ont fait le sous-marin. Hein. Il ne veut pas de sélection naturelle pour les sous-marins, lui. Il y a le sous-marin qui marche, le sous-marin qui ne marche pas. Mais s'il est dans celui qui ne marche pas, le sous-marin n'existe plus, mais lui non plus. Enfin, il meurt. Dieu est un être spirituel et qui crée. Imaginez la quantité de matière qu'il a créée. Quand vous voyez le cosmos, les galaxies et les planètes et les étoiles qui sont dans les galaxies. Il y a plus de 100 milliards de galaxies, avec près de chacune avec 200 milliards d'étoiles et de planètes. C'est une quantité de matière invraisemblable. Big Bang, pourquoi pas? Le Big Bang, ça serait la création de la matière première. D'ailleurs, la matière première peut être une telle densité que la loi de la gravité est terrible. Les trous noirs, c'est pas de l'absence de matière. Au contraire, c'est une concentration de matière qui est tellement dense que c'est un véritable aspirateur. Oui. Saturne a un satellite dont le noyau est en fusion, mais qui est recouvert de glace. Et de temps en temps, il y a des éruptions volcaniques qui cassent, mais 1 kilomètre de glace au moins, et qui envoient des morceaux monstrueux de glace, et qui crachent cette glace régulièrement. Et lui, il a été pris par la loi de la gravité, il tourne autour de Saturne. Et tous les morceaux de glace qu'il envoie sont pris par la loi de la gravité, et tournent, sont en orbite autour de Saturne. Et grâce à la sonde qui est allée jusqu'à Saturne, on sait que ce n'est pas des pierres, mais de la glace. La sonde a vu de la glace, elle a pris des photos de glace, des immenses glaçons, gros comme des montagnes, et qui tournent autour de Saturne. Et c'est pour ça que la lumière du soleil se réfléchit dans ces morceaux, et qu'on voit les anneaux de Saturne. Oh, ça pourrait être de la pierre, mais ça ne serait pas aussi visible que si c'était de la glace. Alors, quel humour, quelle fantaisie. Je ne sais plus quelle planète, elle est à 20, 30, 40% d'ammoniac. Une quantité d'ammoniac pour vous pourriez nettoyer les toilettes pendant des milliards d'années. Mais ça sert à quoi? C'est beau, c'est impressionnant, c'est des masses de gaz incroyables, et Dieu s'amuse. Vous avez les télescopes qui voient des couleurs, des images invraisemblables. Vous avez des gens qui peuvent rester des heures à des heures à admirer les photos du cosmos. Certains y voient même des réseaux neuronaux de comment dire dans
Axon.
Comment
Axon. Non, je ne sais pas si c'est le mot que vous cherchez. Des axones.
Des axones, voilà. C'est-à-dire les noyaux des neurones et les
dendrites.
Et dendrites, c'est-à-dire les filaments de neurone à neurone. Et pourtant, Dieu n'est dans aucun de ces atomes. Il les crée. Son existence dans la matière, elle est dans le maintien dans l'existence. À tout moment, voyez-vous, les atomes de... Quels sont les atomes du verre? C'est du silicium, atome premier.
Je ne sais pas.
Le carbone, c'est plus facile, mais je ne vais pas brûler la table pour que le carbone apparaisse. Il est noir, hein, le carbone. Et donc, il y a plein de carbone ici. Et toutes ces milliards de billes qui sont là. Voyez. À tout moment, Dieu les fait exister. Car si ce verre existait par lui-même, il serait tout puissant. Si un seul atome de ce verre pouvait exister par lui-même, il serait tout puissant. Si une seule goutte d'eau pouvait exister par elle-même, elle serait tout puissante. À tout moment, tout ce qui existe, existe par la puissance divine. Dieu est un être qui existe par lui-même. Et tous les autres êtres existent par Dieu. Et ça, c'est très impressionnant. Eh bien, figurez-vous que toutes les premières générations humaines étaient plus philosophes que nous. Parce qu'ils disaient, il n'y a pas d'effet sans cause. Tout ce qui existe, existe par le Tout-Puissant. Il n'y en avait pas un qui commençait à dire... Ça existe tout seul. Moi, je suis tout puissant. Moi, j'ai pas de père et j'ai pas de mère. C'est moi qui me suis créé. Comment dire, j'ai existé. Oui, mais tu as été dans le ventre de ta mère à un moment donné. Non, je suis tout puissant. J'ai toujours existé. Vous voyez. Oui.
Vous ne croyez pas que c'est notamment du fait qu'on est beaucoup moins confronté à la mort, tout simplement?
Oui. Dans les pays où tout le monde meurt à 30 ans, à 20 ans, à 15 ans, à 5 ans, à 2 ans, eh ben on a peur. Et du coup, on cherche des explications à la vie. Et on finit par se dire, il y a un chef qui est en colère, qui n'est pas content, qui nous laisse mourir, donc il va falloir l'amadouer. Apaiser Dieu à cause de tous les malheurs qui nous arrivent. Mais c'est pas la plus pure prière. La première prière, c'est celle des premières créatures. Quelles sont les premières créatures? Dieu dans son éternité, il est là. Il dit, je vais diffuser ma puissance. Je vais créer de la matière. Et je vais créer... Avant, je vais créer d'autres esprits que moi. D'autres êtres qui vont pouvoir comprendre et aimer. Eh bien, figurez-vous que Dieu a créé les esprits angéliques avant le Big Bang, avant la matière, avant les bactéries. Parce que le miracle de la planète bleue, Dieu a pu créer de la vie ailleurs, hein, on s'en fout, c'est très bien. Qu'il y ait des bactéries, qu'il y ait des êtres ailleurs, qu'on découvre un jour sur une comète une bactérie ou une cellule vivante, c'est génial, tant mieux.
Mais pas d'homme.
Un autre homme sur une autre planète ailleurs, pourquoi pas? Enfin, il faut les mêmes conditions. Ou alors un être qui est capable de filtrer de l'ammoniac, que Dieu crée des entités, pourquoi pas? Ça ne nous concerne pas. C'est possible métaphysiquement. Mais là, on dépense des milliards. J'espère que c'est utile pour la transmission d'ondes et compagnie. Mais j'espère que c'est pas quand même pour penser, rentrer en contact avec un extraterrestre. S'il y a des extraterrestres, tant mieux. Mais ça ne nous concerne que très très difficilement, avec beaucoup d'argent et beaucoup de moyens très spéciaux. Entrer en contact avec les autres. Dieu a pu créer d'autres vies. Seulement, ce qu'il nous a révélé, c'est qu'il a créé des anges, c'est-à-dire de purs esprits. Ça, c'est certain. Autant les extraterrestres, c'est de la pure supposition. Autant les anges, ça c'est certain. Parce que les hommes ont eu suffisamment de contact avec les anges pour savoir qu'ils existent. Qu'est-ce qu'un ange ? C'est un esprit. Ah, comme Dieu alors ? Dieu a créé d'autres dieux ? Ben non. Parce que ce sont des esprits créés, qui dépendent dans leur existence de Dieu. À tout moment, Dieu pourrait les anéantir, par exemple, les tuer. Sauf qu'un esprit n'ayant pas de matière, il faudrait qu'il les anéantisse. Un esprit n'existe que par sa pensée. Donc il faut qu'il pense plus pour ne plus exister, enfin qu'il n'ait plus d'être, en fait. Et les anges ont été créés par myriades, ça veut dire de milliards de milliards d'anges. Ben, si vous vous rendez compte qu'il y a des milliards de milliards d'êtres angéliques qui, avant la création de la matière, se sont vus les uns les autres. Pourquoi je dis vus ? Eh bien parce que l'œil est un moyen extrêmement mécanique, extrêmement sophistiqué, mais extrêmement mécanique de voir. Dieu voit sans avoir des yeux. Dieu conçoit une hirondelle, ou une bactérie, ou une cellule, ou une plante, sans avoir besoin d'avoir des yeux, qui ont besoin d'être humidifiés en clignant des yeux, tout ça. Voilà, Dieu n'a pas d'oreille, mais entend toutes les pensées, et sait tout ce qui se passe, parce qu'il est tout puissant. Oui. Mais il nous aime, il faut que je le dise tout de suite. Et les anges sont des personnes angéliques, comme vous et moi. Il nous a été révélé que nous avons chacun un ange. Donc on est 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est 10 ici, il y a 10 anges minimum ici. Salut. Du moment qu'ils ne nous font pas le coup de déplacer ce verre pendant que je vous parle, on est tranquille. Avec eux, on va... Mais en effet, il peut y avoir des manifestations angéliques, c'est-à-dire que l'ange, lui, a puissance sur la matière. Dieu crée les anges. Et les anges, lorsqu'ils ont conscience d'eux-mêmes, qu'ils ont conscience de tous les autres anges. Si vous voulez, nous, quand on voit une photo du cosmos, on est émerveillé. Imaginez un ange qui voit des milliards d'anges, qui voit des milliards d'intelligences. Des milliards de personnes capables d'aimer. C'est un spectacle. Eh bien, avant même cela, la création de la matière, les anges vivaient. Et Dieu leur a dit, « Je vous aime. Je suis votre Père. C'est moi qui vous ai donné la vie. Et vous devez vous aimer les uns les autres. » Et les anges, de se connaître les uns les autres, et de devoir se connaître et s'aimer. C'est impressionnant le monde angélique, on le découvrira un jour. Et Dieu crée la matière. Et les anges regardent ça comme des Legos extrêmement fins, tout ça, mais c'est du Lego pour eux, c'est amusant. Les atomes, tout ça, pour eux, c'est des billes. Tiens, Dieu joue aux billes. Mais c'est des billes extrêmement belles, c'est d'une rare puissance, c'est très beau. Ils concèdent que c'est très beau. Mais Dieu leur dit, je vais créer d'autres esprits que vous. Ah, ça commence à les intéresser. En concurrence un peu. Et je vais les unir à la matière que je vous ai créée devant vous. Ça alors là, ils seront des vers de terre, des... Ils vont animer de la boue, quoi. Enfin, ils vont animer de la matière. C'est quoi ? Eux qui sont tellement spirituels. Mais pourquoi enfermer un esprit dans un corps ? Dans quelque chose de corporel ? Eh bien parce que ça sera beau. Et que leur intelligence va être nourrie de connaissances à travers leur corps. Et là, les anges s'inclinent devant la volonté de Dieu. Donc Dieu va créer de la vie, peut-être sur actuellement 1 milliard de planètes, on ne sait pas, on s'en fout. En tout cas, il y en a une qu'on connaît, qui s'appelle la Terre, où il a formé une terre refroidie par rapport au magma, où il a créé des cellules, où il a créé des plantes, des bactéries, du plancton, de la vie, des poissons, des reptiles, des oiseaux, des animaux, avec une fantaisie délirante. Nous, quand on découvre les animaux qui ont été détruits par telle ou telle cause, comme les dinosaures, on se dit quelle fantaisie. Et oui, mais quelle fantaisie. Mais est-ce qu'on étudie les coléoptères? Les coléoptères, je crois qu'il y a 200 000 sortes de coléoptères. Vous savez, vous avez les coccinelles. Eh bien, il y en a 200 000 différentes des coccinelles. Mais pas des coccinelles, c'est coléoptères, c'est-à-dire les ailes sont repliées sous une carapace qui s'ouvre en deux. Et vous avez des trucs de fous. Mais avec des cornes, des formes, des yeux, des pattes, des soies, des couleurs invraisemblables. Vous avez des mantes religieuses qui sont en forme de brindilles. Toute leur vie. Et quand elles sentent un danger, tang, elles s'arrêtent. Et leurs pattes, leur corps, tout est en marron et en brindilles. Eh bien, il faut forcément un artiste pour faire ça. Un cobra, vous avez un cobra qui... Non, vous avez un papillon qui a ses ailes déployées, c'est la tête d'un cobra. C'est le dessin du cobra. Et donc, quand il déplie ses ailes, et qu'un oiseau veut le bouffer, il se trouve face à un serpent, et il part. Vous avez un papillon, il a les ailes en forme de feuilles mortes. Et avec la tige. Et dès qu'il est en danger, il se ferme et il tombe au sol.
Donc il a conscience que...
C'est l'instinct. Il n'a pas conscience, il n'a pas fait ses ailes. La seule conscience qu'il peut avoir, c'est la conscience du chat. Le chat est un animal qui nous montre le plus de conscience, ou avec le chien, ou avec l'éléphant, ou avec le dauphin. Il y avait quelqu'un qui apprivoisait des dauphins depuis 20 ans dans sa vie, il a dit « qu'est-ce qu'ils sont cons ?» Alors, le bonhomme de France Info, il dit « quand même, vous allez faire de la peine aux enfants. » Je lui dis « mais qu'est-ce que vous voulez ? Je passe des heures à leur apprendre des tours et je leur donne des poissons. Je les aime beaucoup, mes dauphins. Mais ce sont des bêtes. » Les journalistes, « non. » Non, parce qu'on doit transposer l'intelligence humaine sur les animaux. Eh bien, quand Dieu a voulu créer l'homme, si vous voulez, cette création a été très impressionnante au point de vue spirituel, intelligence et volonté. Parce qu'il a pris un mâle et une femelle d'une espèce animale. Alors, les 7 jours, c'est 7 temps, puisque la terre n'est formée qu'au 4e jour, voyez, du récit de la Genèse. Le premier jour, c'est la création de la matière, la lumière, tout ce qui est lumineux, tout ce qui est magnétique, n'est-ce pas? Le deuxième temps, c'est la création de l'eau et de la terre. Donc c'est la différence entre de matière liquide et matière solide. Le troisième temps, c'est la création de la terre, enfin des planètes elles-mêmes avec les plantes. Vous avez le quatrième temps, c'est les poissons, les oiseaux. Le cinquième temps, c'est certains animaux. Ouais. Et le sixième temps, c'est l'homme. L'homme vient à la fin de la chaîne d'une évolution qui n'a aucune dépendance au hasard et aux milliards d'années. C'est pas avec le temps et le hasard que Dieu a formé, avec autant de fantaisie, de finesse, autant d'être. Voyez, que nos yeux puissent décrypter les longueurs d'onde des photons, c'est une réalisation d'intelligence remarquable. Ça ne peut pas être le hasard. Que nos mains soient un outil universel par rapport à toutes les pinces et autres pattes des animaux, c'est absolument remarquable. D'ailleurs, une des particularités du corps humain, c'est le pouce opposé. Tous les singes ont le pouce dans le même sens que les orteils et les pieds.
Comme des orteils de pied, en fait.
Comme des orteils de pied. Quoi, il y a des marsupiaux qui ont un pouce un peu opposé.
On est les seuls capables de faire la pince.
La pince elle-même. Et ça, c'est Castorama, divin. C'est l'outil universel.
Comme quel...
Ou Monsieur Bricolage, si je n'ai pas le droit de faire de publicité. Mais c'est très impressionnant de l'intelligence qu'il y a derrière nous. Alors là, je passe vite parce que c'est plus discuté par tel ou tel exégète moderne, n'est-ce pas ? Mais par contre, c'est une vérité dogmatique dans la foi chrétienne qu'il y a eu un premier homme et une première femme qu'on appelle Adam et Ève. La trace scientifique de ce premier couple humain, c'est que quel que soit l'aspect extérieur de notre crâne, de notre peau, nous avons exactement les mêmes cellules et le même ADN. Et exactement. Que nous soyons européens, asiatiques ou africains, nous avons exactement les mêmes cellules. Absolument exactement les mêmes cellules. Et comme l'homme ne donne que le noyau de sa cellule dans la reproduction, tout ce qui est le cytoplasme, c'est-à-dire l'eau de la cellule, n'est-ce pas, dans la membrane, vient de la femme. Or, dans le cytoplasme, vous avez des petites usines nucléaires qu'on appelle les mitochondries et qui ne viennent que de la mère. Et on appelle ça, n'est-ce pas, les mitochondries d'Ève. Et elles sont exactement identiques. Que la femme soit africaine, aborigène, nous venons tous d'une même souche. Mais je passe vite. Création entre le tigre et l'Euphrate du premier couple humain. Mais là où je passe pas vite, c'est cette relation qu'il y a entre l'ange et l'homme. Qu'est-ce que voit l'ange ? Il voit un esprit capable d'aimer et qui est dans un corps animal. Et un corps sexué. Adam était un homme, il avait des organes sexuels masculins entre les jambes lorsqu'il a été créé. Il n'y a pas de mythe hermaphrodite, n'est-ce pas ? Adam est créé mâle. Et Dieu va lui donner une femme. Si c'est une guenon dans laquelle il met un esprit, ça devient une femme. Si l'homme est un singe dans lequel Dieu met un esprit, ça devient un homme. Que le corps de la femme a été formé du corps de l'homme, ça, on peut laisser les exégètes discuter là-dessus. Mais qu'il y ait eu un premier homme et une première femme, c'est-à-dire un corps animal avec un esprit immortel, non composé de matière, une âme. Il y a eu un premier homme et une première femme, ça c'est dans la foi biblique. Et quelle est l'importance pour vous, parce qu'on va peut-être arriver à un moment plus ou moins au mariage, eh bien, c'est que le mariage est fondé sur la différence sexuelle. Adam voit la création. Il est conscient de la création. C'est le premier être à pouvoir dire « ça, c'est un arbre, ça, c'est un rocher, ça, c'est un lion, ça, c'est un chien, c'est tout ce règne animal, ça, c'est une araignée, ça, c'est une mouche. » L'animal ne sait pas ce que c'est qu'une espèce. Le chien ne sait pas ce que c'est qu'un chien. Un chien reconnaît un chien, sent un chien, mais un chien ne compte pas. Quand un chien voit trois chiens, il voit trois êtres. Le compter, c'est le deuxième degré d'abstraction. C'est de pouvoir constater la différence numérique. voyez, un animal voit deux choses. Moi, je vois deux choses identiques, avec les mêmes propriétés. Et j'appelle ça un ver. Je vois un chien. Ça a quatre pattes, ça a un museau, ça a tant de distance par rapport au sol, ça a une queue. Ça sera un chien. Il y a des chiens de différentes formes. L'homme s'amuse avec l'ADN des chiens, fait des sélections. Ça a toujours un chien. Un arbre, ça a des racines, ça a un tronc, ça a des branches et ça a des feuilles. J'appelle ça un arbre. Mais il n'y a que l'homme qui puisse faire des genres et des espèces. L'animal, lui, il ne voit pas un arbre, il voit une chose. Il ne peut pas, du coup, il ne peut pas compter. Premier degré d'abstraction, c'est l'essence des choses. Une chaise, c'est un plan plat avec quatre pieds, un dossier sans accoudoir. Ça, c'est une chaise. Et avec des accoudoirs, c'est un fauteuil. Mais c'est nous qui comprenons ça. C'est nous qui donnons des définitions. Et à partir d'une espèce, on peut compter. Les choses identiques, on va les compter. Elles sont 10, elles sont 20, elles sont 1 milliard. C'est le deuxième degré d'abstraction. Troisième degré d'abstraction, c'est de juger. Cette chaise n'est pas belle. Enfin, ce fauteuil n'est pas beau. Parce que ils auraient pu mieux faire pour les accoudoirs. Mais ça, c'est un jugement. Ceci est cela. Premier, ceci est. Deuxième, ceci en tel nombre. Troisième, ceci est. Et je lui donne une qualité. Eh bien, l'être humain, lui, Adam, il est seul. Par contre, on pourrait considérer que historiquement, d'abord, il y a eu l'homme. Et l'homme demande une épouse, demande une associée, une compagne. Et Dieu lui donne. Mais c'est beau de penser que le premier homme a demandé sa compagne, a demandé une relation avec son semblable. Parce que vous pourriez me dire, mais s'il était devenu moine, Adam, il n'y aurait eu qu'un seul homme. Il serait là, il serait entré en relation avec Dieu, avec son Créateur et son Père. Et il aurait dit, ah mais je suis heureux avec toi. Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Mais Dieu ne l'a pas permis que Adam ait cet amour universel pour Dieu. Il s'est senti seul. Il a voulu partager son amour avec quelqu'un qu'il voyait de ses yeux de chair. Et Dieu lui a donné une femme. Et voyez-vous, l'amitié spirituelle entre un homme et une femme, ça s'appelle l'amour conjugal. Et ça, rien ne peut le détruire. Rien. Et Dieu a voulu nous donner à la fois la vie spirituelle et la vie animale. La vie animale, eh ben, vous ne pouvez pas vous empêcher de manger. Vous avez faim. Qui fait l'ange fait la bête. Hein. Vous dites, non, je maîtrise ma nourriture. Je ne peux vivre sans manger. Mais votre corps animal, non, il ne va pas accepter ça. Mais si, je peux vivre sans manger. Je bois. Oui, ben enfin, au bout de 80 jours, tu meurs. Hein. Ça, si on boit, on peut tenir 80 jours, je crois, hein. 40 à 80 jours, pas mal. Hein. Pas mal, hein. Pas mal. Mais c'est tout. Eh bien, ce corps, vous voyez, l'être spirituel que nous sommes, va vivre avec ce corps. Et nous faisons partie à la fois du règne animal et du règne spirituel. Eh bien, parmi les anges, il y en a un tiers qui ont dit « Dieu aime trop les créatures qu'il crée. Nous pourrions vivre sans lui. Nous pourrions nous aimer, je pourrais m'aimer seul. » Et parmi eux, un séraphin, c'est-à-dire un ange d'une très très grande connaissance. L'ordre séraphique. Lucifer. Et Lucifer, très très intelligent dit « Je vais prendre le vertige de considérer que je peux exister sans Dieu. Et tous les autres êtres qui m'entourent doivent être mes serviteurs. Dieu est le Tout-Puissant et nous sommes à son service. Je veux l'imiter. Mais ça ne sera pas un service d'amour. Lui, il veut que ce soit des esclaves. Il devient, comment dire, le centre de son être. Il est égoïste. Et il va entraîner un tiers des anges avec lui. Un tiers des esprits vont se dire, nous pouvons nous couper de l'être que nous recevons de Dieu. Conséquence, est-ce que Dieu les a anéantis? Non. Mais il les a laissés entrer dans la haine. Vous direz, c'est pas normal, Dieu aurait dû les hypnotiser. Oui, mais ils ne seraient pas libres. Quand Dieu a créé les esprits et les êtres humains, il a créé des êtres libres. Redoutablement libres. Magnifiquement libres. Un tiers des anges ont abusé de leur liberté. Et ces anges, lorsqu'ils ont vu l'être humain, ont dit, nous devons l'entraîner avec nous. Lucifer dit à l'humanité, si Dieu vous ment, vous n'avez pas à lui obéir. Ce n'est pas à lui de vous dire ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bon, ce qui est mal. C'est à vous de le déterminer tout seul. Manger du fruit de la science du bien et du mal. Et Ève répond à Lucifer, mais Dieu nous a dit que nous mourrions si on prenait de ce fruit, si on faisait le mal en fait. Et Lucifer leur dit, non, Dieu vous ment, vous ne mourrez pas, mais au contraire, vous serez divinisés. Vous deviendrez tout puissant si vous osez vous séparer de l'origine de votre être, de l'origine de la vie. Et Ève a voulu devenir toute puissante. Quand elle a fait cet acte magique, hein, n'est-ce pas, de se couper de Dieu, elle n'a ressenti aucune puissance. Mais pour ne pas être seule, elle a demandé à Adam de faire comme elle. Elle lui a proposé de devenir divin comme elle. Il l'a fait. Il a désobéi à Dieu et il n'a ressenti aucune puissance. Et au contraire, ils se sont trouvés tristes. Parce qu'ils n'ont pas la puissance angélique. Ils se sont dit, mais on est mort. On s'est révolté contre Dieu. Imaginez un enfant de 8 ans qui dit à son père et à sa mère, ça fait un an que j'ai l'âge de raison et j'ai bien réfléchi. Je n'ai aucun lien avec vous. Vous êtes des étrangers pour moi. Vous n'êtes ni mon père ni ma mère. J'existe sans vous, indépendamment de vous. Vous n'êtes rien. Alors, ils vont peut-être appeler Sainte-Anne dans les minutes qui vont suivre, ou un pédopsychiatre. Ils vont dire, mais mon chéri, ne m'appelez pas mon chéri. Bon, monsieur, comment tu vas faire demain pour aller à l'école? Je ne veux plus aller à l'école, je sais tout. Très bien. Tu vas dormir où ce soir? Chez moi. Vous partez de l'appartement. Ben, ça ne va pas se passer comme ça. Et comment tu vas manger? Eh bien, je prendrai la nourriture. Mais les autres, ils ne vont pas être... Ça va se passer une fois, deux fois, mais au supermarché, tu vas voir, il va y avoir un gros monsieur qui va arriver avec Securitas, hein, et qui va... En plus, avec Vigipérate en ce moment, ça va mal se passer. Vous voyez, on en rit. Mais vous savez, il y a quelque chose de mystique dans la vie humaine. Pourquoi il y a les 10 commandements? Pourquoi on vous dit il faut prier, il faut vous tourner vers votre Père, il faut croire en Dieu. Vous n'êtes pas libre de ne pas croire en Dieu, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, j'ai une parole un peu libre, hein, par rapport au religieusement correct. On n'est pas plus libre de croire en Dieu, de ne pas croire en Dieu, qu'on n'est pas libre de ne pas croire dans l'existence de nos parents, hein. Il n'y a pas d'effet sans cause, hein. Dieu existe forcément. Et les peuples actuellement regardent les Occidentaux comme des fous. Quand les Occidentaux leur disent « mais Dieu n'existe pas, on est le fruit du hasard et du temps », ils sont fous. Comment ils peuvent exister sans que quelqu'un les ait créés, les ait conçus? Moi, quand... Alors, vous dites, oui, mais ce sont des sauvages, n'est-ce pas? Oui, ils pensent qu'on est comme des arcs et des flèches, n'est-ce pas? Eux les ont faits. Mais moi, mon corps, personne ne l'a fait. Mais enfin, vous êtes quand même plus compliqué qu'un arc et qu'une flèche. Et les milliards de cellules qui constituent votre peau, qui sont polarisées, n'est-ce pas, qui empêchent l'eau de rentrer. Il y a un petit courant électrique dans notre peau, je ne sais pas si vous le saviez, qui empêche l'eau de rentrer. Vous savez pourquoi la peau est imperméable? Mais parce qu'il y a un courant électrique. Et si vous êtes dans l'eau pendant longtemps, l'eau va vouloir rentrer, votre peau va se flétrir, mais elle va quand même encore résister tant qu'elle est vivante. Et dès que vous mourrez, il n'y a plus d'électricité dans la peau et l'eau rentre. C'est pour ça que les corps dans l'eau sont gonflés comme des dirigeables, hein. Il n'y a plus de pression osmotique, il n'y a plus d'électricité. Eh bien, voyez-vous, le péché originel, c'est la mort. Adam et Ève ressentent la mort. Et Dieu leur dit, mais puisque vous avez voulu exister sans moi, vous allez être exaucés. Je ne peux pas aller contre votre liberté. Vous allez mourir. Parce que sans moi, vous allez mourir. Et donc ils disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, Dieu dit à la femme, ta descendance va écraser Lucifer. Vos descendants, vos enfants vont être victorieux de votre péché. Dans les siècles futurs, votre enfant, un enfant va venir et va être dans l'amour, va me reconnaître comme père et va m'aimer. Et compensera votre manque d'amour vis-à-vis de moi. Et c'est la promesse du Sauveur. Et c'est dans la Genèse, hein. C'est amusant. Parce que, voyez-vous, des milliers d'années plus tard, arrive un enfant né d'une vierge, donc de manière miraculeuse, et qui va renverser la malédiction de Lucifer. Quand bien même ces récits bibliques nous semblent un peu trop mystiques, il y a quelque chose qui est très concret dans nos vies. C'est que on est un homme, et puis avec la mode en ce moment, bon, avec la barbe, on voit qu'on est un homme, on est une femme, et tous les efforts que vous ferez, sauf être avoir des problèmes hormonaux, vous ne serez pas femme à barbe. Et nous avons une intelligence et une volonté. Ça, on ne peut pas le nier. Qu'on relativise la Bible, on est Adam et Ève et on est face au choix entre la vie et la mort, entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux, et toute notre vie. Et qu'est-ce que c'est que le mariage? C'est qu'un homme et une femme décident de s'aimer, quelle que soit la santé, quelle que soit la fécondité, quelle que soit la maladie, quel que soit l'âge, quel que soit le caractère, le tempérament, c'est un acte de confiance qui actuellement dépasse la normalité occidentale. En Occident actuellement, dès que quelque chose nous contrarie, on change. On ne veut pas conquérir, on ne veut pas reconquérir, on ne veut pas aimer dans le temps. Alors je peux vous assurer qu'il y en a un qui aime dans le temps et qui ne se lasse pas de nous aimer. C'est Dieu, c'est notre Père. C'est le meilleur des Pères parce que jamais il ne retire son amour. Il nous le propose toujours. Et on va faire une pause.